Ah, je vous le dis, s'il se taise, les pierres crieront. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura et dit, Si tu connaissais, toi aussi, en ce jour, ce qui te donnerait la paix. Mais maintenant, c'est caché à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de palissades, t'encercleront et te presseront de toutes parts. Ils t'écraseront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Donc, le dimanche des rameaux aujourd'hui, dans le texte que nous avons lu, bon, ben, les rameaux n'apparaissent pas, c'est vrai. En fait, ils sont remplacés par des manteaux que les disciples jettent sous les pas de l'ânon qui porte Jésus. Un ânon qui semble avoir été prédestiné, hein, à porter le Seigneur. Aucun humain ne s'était jamais assis sur lui. Une sorte de phrase mystérieuse clé a convaincu ses maîtres en un instant de le laisser partir avec les disciples. Le Christ en avait-il réellement besoin? Après les kilomètres et les kilomètres de marche qu'il a avalés depuis la Galilée jusqu'à Jérusalem, est-ce que c'était vraiment la petite descente et la petite montée qui le séparait de la capitale, qui lui faisait peur et qui nécessitait qu'il soit porté par un ânon? Non. C'était pour autre chose. Mais le Seigneur en a besoin, c'est peut-être Seigneur Dieu. Mais lui qui peut susciter de la poussière à un ânon tout neuf, avait-il vraiment besoin de cet ânon-là? Dieu en avait besoin, quelque part, parce qu'il était lié par sa propre parole. Il avait dit déjà dans le passé par la bouche du prophète Zacharie, bien longtemps à l'avance, il avait dit cette phrase. Sois transportée d'allégresse, fille de Sion. Lance des clameurs, fille de Jérusalem. Voici ton roi, il vient à toi. Il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Oui, Dieu avait annoncé très longtemps auparavant que le roi messianique, le Messie des Juifs, viendrait à Jérusalem non pas comme un conquérant, sur un cheval de guerre ou sur un char tiré par un superbe attelage, mais sur un ânon. C'est un roi qui vient pour la paix et non pour la guerre. C'est un roi par lequel Dieu offre une réconciliation, de retrouver son peuple. Jésus, qui approche de la capitale et qui connaît la Bible, les écrits des prophètes, savait que Dieu son Père pourvoirait à tout ce qu'il faut pour que les Écritures s'accomplissent. Et il a trouvé cet ânon. Alors qu'ils descendent, les disciples sont saisis de joie, se mettent à redire tous les miracles que Jésus a accomplis de la part de Dieu pour son peuple. Ils chantent et louent Dieu. Ils s'approprient cette phrase du psaume, Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Ils la proclament consciemment ou non, je ne sais pas, que celui qu'ils accompagnent est un envoyé de Dieu. Et ils honorent sa venue en lui formant un chemin de manteau afin que la poussière du sol ne touche pas la monture du Seigneur. Une arrivée royale et une foule de disciples, plus grande que les simples 12, accompagnent Jésus. Et je vous attire votre attention sur cette expression qui fait le parallèle avec quelque chose. Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Pour moi, ça a fait écho à cette phrase des anges, à ce chant des anges au berger lorsque le Seigneur est né sur la terre. Les anges criaient gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre aux hommes qui l'agréent. Il y a un écho et en même temps une différence. Les anges reconnaissent la gloire en haut et annoncent la paix sur la terre. Les disciples reconnaissent la gloire en haut, mais annoncent la paix dans les cieux. Qu'en est-il de la terre? Est-ce qu'elle veut la paix? Est-ce qu'elle est en paix? Les pharisiens, les membres du plus puissant parti politique et religieux de l'époque, voient cette liesse et cette agitation d'un mauvais œil et demandent à Jésus de calmer les disciples un peu. Mais il faut que s'accomplissent les Écritures. Il faut que la fille de Sion soit transportée d'allégresse, qu'elle lance des clameurs. Aussi leur répond-il que si ils faisaient taire ses disciples, les pierres elles-mêmes se mettraient à crier à leur place pour que la joie éclate de toutes les manières. Et l'histoire montrera que les pierres finiront par crier, mais elles crieront autre chose. Parce qu'en s'approchant de la cité de David, Jésus est saisi d'émotion et il pleure. La foule en joie ne suffit pas à masquer ce que lui perçoit ou sait déjà. Il y a un endurcissement, une rébellion de cette cité contre Dieu. Et peut-être parmi ceux qui escortent Jésus et qui crient Hosanna, certains se retrouveront quelques jours plus tard à crier Crucifie-le. Jésus pleurait pour la seconde fois dans la Bible. Il pleure sur ce peuple, cette foule représentée par la capitale du culte, par le lieu du temple. Ce peuple est aveuglé et ne perçoit pas ce qui se déroule sous ses yeux. Le prophète Ésaïe disait, Le bœuf connaît son propriétaire, l'âne reconnaît la mangeoire de son maître, mais Israël, lui, ne connaît rien. Mon peuple n'a pas d'intelligence. Et Jésus pleure devant l'ignorance de Jérusalem, pleure d'autant plus qu'il en connaît les conséquences de cette ignorance. Car il dit, Tu n'as pas connu le jour où tu as été visité. Visité? Visité dans la Bible, ça veut dire quelque chose. Lorsque Dieu visite son peuple, c'est une bonne nouvelle. Joseph, le prince d'Égypte, sur son lit de mort, disait aux siens, Mais Dieu vous visitera. Et il vous fera remonter d'Égypte vers le pays qu'il a juré de donner à Abraham, Isaac et Jacob. C'est pour ça qu'il va demander à ses proches d'emporter ses ossements pour les enterrer en terre promise. Anne, la mère du prophète Samuel, fut visitée elle aussi, comme il est écrit. Lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte et elle enfanta trois fils et deux filles. Noémie, la belle-mère de Ruth, décida de rentrer chez elle. Suite à une visite de Dieu sur son peuple, comme il est écrit. Et puis Noémie se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle avait appris que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Le psaume 65 parle de la visite de Dieu sur la terre, en disant, Tu visites la terre et tu lui donnes de l'abondance, tu la combles de richesses. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau, tu prépares le blé quand tu la fertilises ainsi. Zacharie, le père de Jean-Baptiste parle également dans son cantique en disant « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, car il a visité et sauvé son peuple. » Enfin, la foule, lorsque Jésus ressuscite l'enfant de la veuve de Naïm, elle dit « Un grand prophète a été suscité parmi nous et Dieu a visité son peuple. » Tout cela pour dire quoi? Pour dire que si Dieu est venu visiter son peuple, ce n'est pas pour le perdre. Lorsque Dieu s'approche en la personne de Jésus, de son peuple, c'est pour lui donner la paix, pour être la source de sa paix. Et c'est ce que Jésus affirme lorsqu'il dit, Si tu connaissais toi aussi ce qui, en ce jour, te donnerait la paix, mais maintenant cela est caché à tes yeux. Et je parlais de la conséquence. Ce temple que Jésus voit aujourd'hui a été reconstruit par Hérode le Grand. En 19 avant Jésus-Christ. Et les travaux de reconstruction vont durer jusqu'en 62-63. Et il sera détruit en 70. Parce que les Juifs vont se révolter contre l'Empire en 63. Et plus tard, l'empereur Vespasien enverra son fils, le général Titus, assiéger la ville de Jérusalem. Et elle sera effectivement entourée d'une palissade. Et le pire, c'est que les Juifs, les partis, les courants politiques à l'intérieur de Jérusalem seront déchirés entre eux. Et certains, les Zélotes, pour obliger le peuple à se battre plutôt qu'à à camper derrière ces murailles, brûleront les réserves de nourriture et plongeront la cité dans une famine terrible. À la fin, le temple sera incendié et jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais été reconstruit. Dieu a visité son peuple. Le ciel était en paix. Le ciel voulait la paix. Et son peuple n'a pas su voir la main tendue par Dieu. Peut-être que cela peut vous inquiéter. peut vous pousser à croire que nous aussi, nous pourrions manquer la main de la paix de Dieu, manquer l'occasion de revenir, de se réconcilier. Et nous pourrions croire que, ne voyant pas la main de Dieu, ben, on va être livré au malheur, comme cette cité. Alors j'ai une bonne nouvelle. Aujourd'hui, il n'en est plus comme alors. Alors, Dieu est venu en chair et en os visiter son peuple, visiter sa maison, son temple, comme le prophète Malachie l'avait dit. Il avait prédit que la venue de Jean-Baptiste allait préparer la venue du Seigneur chez lui. Il avait dit, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'alliance que vous désirez, le voici, il vient, l'Éternel des armées. Cette scène-là de Dieu qui rentre dans son temple, elle se passe juste après l'arrivée de Jésus à Jérusalem, parce que Jésus va rentrer dans le temple lui-même. Et Dieu visite sa maison. Le peuple d'Israël attendait la venue d'un Messie en chair et en os, le descendant de David, le sauveur du peuple. Ce temps de l'attente, pour nous, il est terminé. Nous ne sommes plus, comme l'était Israël, à guetter les signes de la venue du Messie parmi nous. Aujourd'hui, les choses ont totalement changé. Il y a dans les cieux, dans le camp de Dieu, la paix. Une paix qui ne passera jamais. Nous, les chrétiens, nous pensons que tout le mal que nous connaissons, que nous vivons en nous-mêmes, que nous subissons, physique, mental, émotionnel, spirituel, vient de la séparation, d'un grand divorce entre Dieu et sa création, entre les cieux et la terre. Depuis les cieux, la justice de Dieu bouillonnait de s'abattre sur le méchant, le cruel de ce monde, sur les rebelles qui refusent son autorité et sa vérité. Quelque part, les cieux et la terre étaient comme en guerre. Mais Christ, en Christ, Dieu a accompli quelque chose de merveilleux pour nous. Il a pacifié les cieux. Il a pacifié les cieux. Jésus, le Fils de Dieu, a accompli un rituel spirituel de pardon tellement puissant qu'aujourd'hui encore, les cieux sont en paix. La justice de Dieu ne tombe plus comme autrefois, mais elle patiente pour laisser la porte du salut ouverte aux humains longtemps, très longtemps. Jérusalem n'a pas vu le temps où la paix lui était offerte, mais nous, qui sommes venus au monde après l'œuvre de Jésus à la croix, pour nous, la paix est offerte par Dieu depuis les cieux, du premier cri du nouveau-né jusqu'à son dernier souffle. La paix est offerte maintenant, là, tout de suite, alors que je vous parle. La paix, comme je vous l'ai donnée de la part de Dieu au début de ce culte, je vous donne la paix de la part de Dieu. En m'entendant dire ça, peut-être certains se disent, mais de quel droit s'imagine-t-il parler au nom de Dieu? Ce n'est pas un droit que j'ai, quoique mon baptême peut-être me le donne. C'est plutôt une foi profonde que les cieux ont été pacifiés, que les cieux ont été rendus favorables, et j'ai toute assurance de vous dire, je vous donne la paix de la part de Dieu grâce à ce que Christ a accompli. On pourrait imaginer un homme endetté, surendetté, auprès d'un riche propriétaire qui a le bras long en plus. Et cet homme fuirait cette dette comme il peut. Il répondrait à aucune lettre, aucun coup de fil. Il déménage sans cesse pour ne pas être tracé. Il vit dans la peur et dans l'ombre. Mais quelqu'un d'autre, un juste, s'approche de ce riche propriétaire. Et il a tout payé, tout liquidé la dette. Et même, il a laissé une provision d'argent immense au cas où ça recommencerait. Et puis il a plaidé la cause de ce pauvre homme, imploré de le reprendre, en engageant son propre nom et honneur de juste, si bien que le propriétaire conquis par les actes et les propos de ce juste accepte de retrouver cet homme pour dire qu'il est en paix maintenant avec lui à cause de ce juste. Eh bien, mes amis, Jésus est le juste qui a pacifié les cieux pour vous et pour moi. Nul n'est besoin pour nous de fuir ce Dieu. Nul n'est besoin d'apporter de l'argent ou des œuvres bonnes ou des recommandations pour être admis dans sa présence et dans son amour, Christ le juste a tout payé, et plus encore, il a laissé une provision à votre nom propre. Et cette nouvelle, elle ne s'arrête pas à vous. Elle ne s'arrête pas à moi. Peut-être que Jésus a encore besoin de trouver un ânon, une bête humble, d'apparence inoffensive, pour porter son message de paix à d'autres encore qui fuient toujours loin de Dieu. Croyez-vous que Dieu a besoin de super théologiens, de pasteurs trop balèzes, de gens tellement saints et purs pour porter son message à ceux qui fuient? Je crois qu'il a besoin d'ânons simples, tout doux, qui ne font de mal à personne, pour dire la paix aux autres. Amen. Retrouvons-nous.